comme pays tiers sûr. Est-ce qu'on peut s'attarder un tout petit peu sur les critères qui ont conduit au choix du Rwanda pour cet accord, Monsieur Kane?
Mais le choix du Rwanda est lié au fait que le Rwanda a été le pays qui a accepté l'offre que le Royaume-Uni a faite à un certain nombre de pays africains qui ont tous refusé. Et les pays ont refusé parce que c'est une violation totale du droit international. Vous savez, depuis 1951 en Europe et 1969 en Afrique, il y a des textes qui protègent les réfugiés comme des catégories humaines importantes à protéger quand ils sont en mouvement. Cette protection-là, ce n'est pas seulement une protection de leur vie, mais c'est aussi des procédures qui leur permettent, même si on leur refuse l'asile dans un pays, de tout mettre en œuvre pour que ces personnes-là ne retournent pas dans dans le pays qu'ils ont quitté pour des raisons évidentes de peur pour leur vie. Il y a également des mécanismes qui sont en place, des procédures judiciaires, pour que ces personnes-là puissent, devant les juridictions des pays où ils essayent de s'établir, que ces juridictions-là donnent leur avis sur le caractère normal de leur séjour sur le pays et les possibilités de pouvoir y rester. Toutes ces règles-là leur sont refusées à cause de cet accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda. C'est là où vraiment ça pose problème, c'est là où on devrait refuser cette violation flagrante du droit international des réfugiés.
J'aimerais avoir une petite précision avec vous, M. Kane. Quels sont les critères qui permettent de définir un pays sûr?
Madame, il n'y a vraiment pas, au plan international, il n'y a pas de critères. Ce sont les Européens qui ont commencé à introduire des critères de pays sûr. Vous savez, ce qui est en jeu ici, c'est que un réfugié, c'est quelqu'un qui craint pour sa vie dans un pays et qui décide de s'exiler dans un autre pays. Ce pays-là, ou bien il l'accepte, le reçoit, ou bien ce pays refuse de le recevoir et lui permet et permet aux réfugiés d'aller dans un autre pays. Mais dans le cas présent, le Royaume-Uni ne permet pas aux réfugiés de choisir où il veut aller. Il lui impose un endroit où il doit résider. Et cet endroit-là, c'est le Rwanda. Et dans le cas du Rwanda, le problème est que il y a des Rwandais qui sont réfugiés en dehors du Rwanda. Donc, si on utilise le critère de pays sûr, le fait que des Rwandais, craignant pour leur vie, ont quitté le Rwanda pour aller ailleurs, donne déjà une indication sur la sûreté qui peut exister dans ce pays. Donc, vous voyez qu'on est dans un monde où il n'y a aucune règle, et c'est les règles que les États se donnent qui deviennent maintenant des règles du droit international. Alors que le droit international n'est pas celui-là. C'est un droit qui a été accepté par toute la communauté humaine comme pour servir de règles que tout le monde doit respecter. Et là, depuis 69 en Afrique et 51 en Europe, il y a des règles qui régissent la situation de ces réfugiés et on doit les respecter.
Monsieur Niringabo, vous êtes à Kigali. L'Europe traverse une crise existentielle et le Rwanda lui offre une catharsis parfaite. C'est ce que vous avez écrit dans un article que vous avez publié sur cet accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Quels sont les arguments avancés par le Rwanda en faveur de cette loi? Ils aimeraient comprendre en quoi le Rwanda constitue une catharsis à cette crise migratoire en Europe, selon vous.
Alors, quand je reviens sur la question, les gens se sont beaucoup insistés sur le Rwanda, les critères du Rwanda, les conditions de vie du Rwanda. Mais la question n'est pas le Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays qui reçoit des gens qui sont déclarés indésirables dans un autre pays. Alors, est-ce que cela est là? Le Rwanda est le pays qui reçoit ces gens-là. Et j'aimerais faire une petite précision. C'est le critère de sélectionner le Rwanda comme pays d'accueil, mais pas le fait que le Rwanda ait accepté cet accord. Vous savez, il y avait beaucoup d'Africains qui étaient en Libye, alors que la Libye venait d'être complètement détruite. L'État n'était plus en Libye, il y avait du terrorisme, etc. Ces Noirs, ces Africains, étaient en train d'être traités comme des esclaves, etc. À cette époque-là, le président Kagame était président de l'Union africaine. Il a demandé à ce que des pays africains puissent offrir un asile digne à ces gens-là.
Mais là, ce n'est pas la même situation, excusez-moi. Là, nous parlons du Royaume-Uni, des réfugiés qui quittent et qui vont vers le Royaume-Uni et qui seront expulsés vers un pays africain. On parle de deux continents différents, monsieur.
On ne parle pas des réfugiés qui vont vers le Royaume-Uni. On parle des réfugiés. En fait, la loi ou cette procédure, cet accord vise à ce qu'il n'y ait plus de réfugiés qui périssent dans l'océan Atlantique, qui sont sujets à des kidnappings, à des rançonnages, à des tortures, à des détentions illégales, etc. Partout en Europe. En fait, ce n'est pas une loi vraiment entre le Royaume-Uni et le Rwanda. C'est une loi, c'est un accord qui vise à apporter ne serait-ce qu'un semblant de solution à la question de migration clandestine qui n'a jusqu'ici toujours pas trouvé de solution. Le Royaume-Uni et le Rwanda étant les deux pays qui sont à l'initiative cette fois-ci, et quand je parle de crise existentielle en Europe, en fait, on ne va pas, mais madame, je vous dis qu'on ne va pas recevoir des réfugiés ukrainiens, on ne va pas recevoir des réfugiés français ou anglais, on va recevoir des réfugiés noirs et arabes.
Selon mes informations, pour l'instant, on n'a pas encore de précision sur la nationalité de ces réfugiés. Monsieur Dougali, je me tourne vers vous. Quelles sont vos principales préoccupations concernant l'adoption de cette loi? Monsieur Dougali, vous recevez?
Ah oui, je n'ai pas bien compris votre question.
Quelles sont vos préoccupations? Vous avez observé cet accord qui dure depuis deux ans, les tractations pour l'adoption de cette loi qui dure depuis deux ans. Mais quelles sont vos préoccupations concernant l'adoption de cette loi?
Ben écoutez, moi je vais d'abord... il faut reconnaître au Royaume-Uni le droit de se protéger des afflux, des vagues de migrants qui prennent la mer à partir des côtes françaises pour essayer d'entrer sur le territoire britannique. C'est un droit et ça ne me choque pas que les Britanniques essayent de protéger leur territoire et leur économie de ces vagues humaines qui arrivent. Seulement, je peux comprendre ça, mais cet amalgame qui est fait entre réfugiés économiques, parce qu'il y en a beaucoup, et aussi demandeurs d'asile, c'est-à-dire des gens qui fuient des pays en guerre, à l'instar de l'Ukraine, de l'Afghanistan ou de la Syrie, ça me dérange. Ça me dérange parce que un demandeur d'asile, lorsqu'il se retrouve sur un territoire, a vocation à y rester parce que les lois internationales lui apportent ces garanties-là. Or, ils vont se retrouver au Rwanda, c'est un pays qu'ils n'ont pas choisi. Ils n'y étaient pas préparés psychologiquement. C'est moralement dérangeant. Et quand on entend le Premier ministre britannique considérer après l'adoption de cet accord que c'est un bon investissement, ça me choque encore plus parce que c'est un champ lexical qui est puisé dans l'économie spéculative. Or, nous parlons d'êtres humains. Et depuis qu'on évoque l'adoption de cette loi, on nous parle de chiffres, on nous parle d'argent, de millions qui seront payés, on ne sait pas jusqu'à quand. Ces gens qui seront accueillis, je ne crois pas qu'ils seront maltraités. Je ne le crois pas du tout. Parce qu'il y a un camp qui a été construit pas loin de Kigali et où les gens ont été accueillis, ils sont dans de très bonnes conditions, ils vivent même peut-être, ils ont un niveau de vie un peu supérieur à celui du Rwandais moyen. Mais ce processus de transport d'êtres humains pour les éloigner d'un territoire où ils sont indésirables est choquant moralement. Et il me choque aussi parce que c'est quand même la Grande-Bretagne, c'est l'Occident qui a enseigné, a dispensé au monde des leçons de droits humains et qui se permet d'organiser cette de traite. C'est très choquant. Voilà.
Vous l'avez dit, en termes d'investissement, la Grande-Bretagne dépenserait plus de 3 milliards de livres par an pour traiter les demandes d'asile, le coût de l'hébergement des migrants en attente d'une décision dans des hôtels et autres lieux de séjour s'élevant à environ 8 millions de livres par jour. Ce sont les chiffres qui nous sont parvenus par la presse. Et cette loi n'est-elle pas aussi l'expression d'un sentiment de ras-le-bol face à la crise migratoire, M. Kahn?
Ras-le-bol de qui? Vous savez, ces crises migratoires n'existent pas, comment dirais-je encore, ex nihilo. Ces crises migratoires sont le résultat d'un certain nombre de problèmes qui sont posés par les États. Si vous prenez le cas, par exemple, des Afghans, mais c'est l'invasion américaine et les conséquences de cette invasion américaine qui expliquent le mouvement des personnes. Vous prenez les Irakiens, vous prenez les Syriens, toutes ces crises-là, on connaît leurs causes. Et vous prenez en Afrique, puisqu'on parle des Africains qui vont être concernés, c'est la crise éthiopienne, c'est la crise érythréenne, c'est aujourd'hui la crise soudanaise. Nous tous, nous connaissons les conditions de cette crise. Nous sommes dans un monde qui est globalisé, dans un monde qui doit montrer de la solidarité à ceux qui souffrent. Et ceux qui souffrent ont besoin, à travers des règles du droit international, d'être traités d'une certaine manière. Mais c'est ce que la Grande-Bretagne, sous des prétextes fallacieux, refuse. Et c'est ce que, d'une certaine manière aussi, parce qu'en acceptant le deal que lui propose la Grande-Bretagne, le Rwanda accepte lui aussi de violer les règles du droit international. C'est là où ça pose problème. Et tout à l'heure, une des personnes que vous avez interrogées au Rwanda disait une chose. Je vous donne un exemple, madame, qui est aussi une situation similaire. Il y a quelques années, on avait arrêté un Égyptien en Suède pour des raisons de terrorisme. La Suède ne voulait pas de cette personne pour des raisons qu'elle sait et avait voulu renvoyer cette personne en Égypte. Les gens s'y étaient opposés en disant qu'en Égypte, la personne pourrait faire l'objet de torture et autres. Malgré toutes ces craintes-là qui ont été exprimées, la Suède a renvoyé cette personne en Égypte. Cette personne a été torturée en Égypte et finalement, les citoyens suédois ont été obligés de compenser cette personne pour les violations de ses droits par la Suède d'une certaine manière. Donc, vous voyez que ce n'est pas théorique dans la pratique de ces personnes-là. Si elles vont au Rwanda, vont être dans des camps, alors qu'en Europe, ils ne seront pas dans des camps. Et donc, leur situation va être gérée de telle sorte que ce sera même la violation de leur droit, parce qu'on n'est même pas sûr que ces personnes-là auront le droit de quitter le Rwanda quand elles veulent.
Alors, je vous comprends bien, c'est la capacité même du Rwanda à accueillir cette déplacée qui est remise en cause. Vous voulez dire un mot, M. Nyiringabo?
Je suis né en exil, mes parents aussi. Alors, la génération de mes parents, qui est pratiquement celle des dirigeants de ce pays, ont passé 30 ans à demander à rentrer au Rwanda. On leur a dit la même chose. Okay. On leur a dit que le Rwanda n'a pas la capacité de vous recevoir. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas. En fait, la Grande-Bretagne n'est pas en train de renvoyer ces gens parce qu'ils n'ont plus la capacité de recevoir. C'est une question morale, en fait. Mes collègues sont en train de faire des analyses juridiques, moi-même je suis juriste, mais la réalité est tout autre. Quand les gens traversent la mer au péril de leur vie pour gagner l'Europe, etc., il n'y a pas de droit international qui est respecté dans ces conditions-là. Ces personnes-là, quand ils vivent dans des détentions à ciel ouvert en Europe, en attendant que leur dossier puisse être traité ou qu'ils puissent être expulsés, ce n'est pas le respect du droit international qui est respecté. On est en train d'essayer de proposer une solution. Et puis nous ne participons, il ne faut pas comprendre les choses, nous ne participons pas à l'expulsion. Nous sommes un pays d'accueil. Nous sommes un pays d'accueil, nous accueillons. Quand les Africains étaient, je répète, quand les Africains étaient coincés à Libye, on a demandé à 54 pays africains de montrer cette fameuse solidarité. Aucun pays ne les a reçus. Ils ont préféré les laisser en Libye, là où ils étaient dans des conditions précaires.
Donc, le Rwanda, le Rwanda montre la solidarité à l'endroit de ces migrants.
Les formes morales de solidarité, ce ne sont pas des théories juridiques. Il faut que cela puisse être mis en pratique.
Je vous remercie, M. Nyiringabo. Je vous remercie. Et est-ce que l'expulsion de ces migrants, c'est une mesure? Est-ce que c'est une mesure efficace pour lutter contre l'immigration clandestine? Je vous propose quelques réactions de nos téléspectateurs. Nous avons Gaston Ngoulou de Brazzaville qui se demande, mais depuis quand le Rwanda est-il devenu un pays européen? Déjà, le Rwanda, selon lui, est à la recherche de terres. Comment lui déverser de nombreux migrants qui ont bien leur propre pays d'origine et qui pouvaient y être retourné. L'Asgasek de Dakar dit « Il y a un moindre mal à renvoyer les demandeurs d'asile au Rwanda plutôt que de les abandonner. Loin de nous l'idée de cautionner cette pratique. Cependant, entre le mal et le pire, Il faut choisir le moindre. Voilà ce qui nous amène à la seconde partie de ce débat Washington Forum sur VOA Afrique. On se retrouve après une courte pause.
Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Washington Forum sur VOA Afrique, bienvenue si vous nous rejoignez. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a promis lundi de commencer à envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda dans un délai de 10 à 12 semaines après l'adoption par le Parlement d'une loi très attendue visant à faciliter l'expulsion des personnes arrivant en Grande-Bretagne sans autorisation. Nous parlons des implications de cette mesure avec mes invités de Kigali. Nous avons Gaté Tenyiri Ngabo, avocat et écrivain, de Dakar, Ibrahima Kane, juriste et spécialiste des droits de l'homme en Afrique, et Georges Dougueli, journaliste chez Jeune Afrique à Paris. Je reste avec vous, Monsieur Dougueli. Vous avez suivi juste avant la pause Monsieur Nyeri Ngabo qui nous expliquait que le Rwanda montrait juste sa solidarité envers ses migrants. Une réaction avant d'aller aux autres questions?
Ben, je pense que le Rwanda a une vraie culture d'accueil de migrants, parce que comme il a si bien rappelé, beaucoup de Rwandais qui sont adultes aujourd'hui sont nés et parfois ont grandi, ont fait leurs études en exil, beaucoup en Ouganda. Il y a un savoir-faire dans l'accueil des demandeurs d'asile, parce qu'ils y ont été eux-mêmes confrontés dans leur vie. Je n'ai aucun doute par rapport à ça. Maintenant, c'est le caractère innovant de cette solution et son aspect moralement choquant qui me préoccupe.
Monsieur Kane?
Oui.
Un avis?
Oui. Dire que le Rwanda est un pays d'accueil, pour moi, là n'est pas le problème. Tous les pays africains sont des pays d'accueil, madame. Tous les pays africains. Peut-être à l'exception notable de l'Afrique du Sud où on a une afrophobie qui existe. Tous les pays africains le sont. Mais on ne traite pas la situation des étrangers dans un pays en se mettant au service d'un autre pays qui n'en veut pas. On ne peut pas servir de faire valoir un pays pour gérer une situation qu'on n'a pas créée et dont on n'est pas concerné. Si ces personnes-là qui vont être envoyées au Rwanda avaient décidé par elles-mêmes d'aller au Rwanda, j'aurais pu comprendre la réaction des autorités rwandaises. Mais elles n'ont pas voulu du Rwanda, elles ont voulu aller en Europe, elles ont leurs raisons, et en Europe, elles ont le droit d'être accueillies. Maintenant, que l'Angleterre leur refuse le territoire, c'est une chose, mais que l'Angleterre veuille, malgré le refus, les renvoyer dans un pays qu'ils n'ont pas choisi, ça c'est une autre chose, et c'est ça qui est, comme disait tout à l'heure mon étudiant, qui est moralement inacceptable et qui ne doit pas être accepté.
Monsieur Nyeri Ngabo, j'ai une préoccupation. Comment les autorités rwandaises envisagent-elles de gérer les questions de stigmatisation et de discrimination potentielle à l'égard de ces personnes qui vont arriver à Kigali?
Non, il n'y aura pas de questions, parce que ce sont des questions très... De par notre histoire, ce sont des questions qui sont traitées de manière sérieuse, qui sont prises au sérieux. Il n'y a pas de cas de xénophobie ou de discrimination. Maintenant, quand même, pour revenir à mes confrères qui disent, s'ils me mettent à la place des migrants, effectivement, s'ils voulaient venir au Rwanda, ils seraient venus au Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda qui était leur choix où ils voulaient aller. Mais maintenant, ces personnes-là, aujourd'hui, n'ont pas le choix. Ce n'est pas comme si on leur a demandé où ils voulaient aller. On leur a détenu, ce sont les personnes qui sont détenues en Angleterre en attendant cette situation qui s'est régularisée. Ce sont les personnes en détention. En revanche, quand ils viendront au Rwanda, ils ne vont pas, être mis dans un endroit de détention. D'ailleurs, les logements qu'on avait construits pour eux, on a décidé qu'on ne va pas créer un quartier des migrants. On a décidé de prendre une partie de les mettre là-bas et d'autres de les introduire, intégrer dans la communauté rwandaise de Kigali et mettre justement des Rwandais de Kigali qui aient habité dans ces endroits-là pour faciliter l'intégration. Mais comme mes collègues le disent, on est tout à fait d'accord quant au fait que peut-être 50% de ces gens vont essayer de retourner en Europe ou aller dans d'autres pays tiers. D'autres vont rester, mais pour l'instant, on est en train de donner une solution pour qu'ils quittent leur lieu de détention en Angleterre, pour qu'ils aient un endroit où se mettre d'abord. Ensuite, pour que leur question puisse être étudiée pendant qu'ils sont traités de manière
civile. Merci pour cette précision. Monsieur Dougali, on a vu les appels internationaux qui exhortent le Royaume-Uni à renoncer à cette loi. Est-ce que cela pourrait avoir un impact sur la Grande-Bretagne par rapport à cette mesure, selon vous?
Je suis désolé, mais les appels internationaux ne proposent aucune solution. Mais c'est un problème qui va au-delà de la Grande-Bretagne. Regardez aux États-Unis, tous ces migrants qui arrivent d'Amérique latine et qui sont parqués dans des très mauvaises conditions. Regardez même en France, il y a des bidonvilles qui naissent aux abords des grandes villes. Et là, avec les Jeux Olympiques, on en a éloigné des milliers dans les villes secondaires pour les éloigner de Paris. Il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, les Britanniques, je le répète, qui ont, comme tout pays souverain, le droit à décider de se protéger de cela, parce que mon ami de Dakar disait que c'est le résultat des politiques étrangères. Oui, mais ne nous exonérons pas, nous aussi, nous, Africains, de tout ce que nous faisons dans nos pays, ou ce que nous ne faisons pas pour retenir notre jeunesse, à qui nous n'offrons aucune perspective. Nous avons notre part de responsabilité dans la situation actuelle. Et donc, qu'un pays se propose en collaboration avec un autre pays, qui soit africain, de trouver solution à une crise globale liée à la migration, je redis, il faut que nous on regarde cette situation avec beaucoup plus d'attention et considérer que ça peut être amélioré. La situation actuelle est encore à bien des égards choquante sur le plan moral, mais il est important de chercher des solutions et celles que nous proposent les Britanniques et les Rwandais, ça n'est une qui a des défauts, mais c'est une solution, un début.
Monsieur Kahn, je vous laisse conclure ce débat en quelques mots. Maintenant qu'il n'y a plus de retour possible en arrière, que proposent les organisations internationales pour que ces déplacés puissent être dans de bonnes conditions une fois arrivés au Rwanda?
Mais madame, avant de parler du séjour de cette personne au Rwanda, on doit quand même interroger les États africains, parce que ces règles-là, comme je vous l'ai souligné,
sont des règles
qui violent le droit africain lui-même. Et donc, pour moi, ce serait important pour que les États africains eux-mêmes montrent au Rwanda que telle n'est pas la solution. Telle n'est pas la solution. La solution, c'est de donner à ces personnes-là un abri, de faire en sorte que ces personnes-là, leur volonté soit respectée. Et à cette personne maintenant de voir dans le futur ce qu'ils feront de leur vie, mais pas de leur imposer une manière de vivre.
Merci. Merci à vous, M. Kahn. Merci à vous, M. Dougali, également M. Niringabo de Kigali. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Washington Forum sur VOA Afrique, le rendez-vous, c'est tous les jeudis à 19h100 universel et en rediffusion samedi et dimanche. Bonne soirée à toutes et à tous.